Maman, ils ne m'ont pas laissé entrer dans mon école. Ils disent que les filles n'y sont pas autorisées. C'est une séquence que vous avez peut-être vu passer. Elle date d'il y a un peu plus d'une semaine. Une petite fille filmée par ses parents en Afghanistan. Le jour de la rentrée, on l'a envoyée chez elle, sans autre forme de procès. Signe d'un durcissement par le nouveau régime taliban. Retour sur une promesse qui avait été faite, celle de la réouverture des écoles pour les filles après le nouvel an afghan. Retour en arrière au précédent régime taliban à la fin des années 90 où il était, là aussi, interdit aux femmes et aux filles d'y accéder. Retour du bâton, par conséquent, pour reprendre une traduction de ce qu'a très bien étudié Suzanne Faludi aux États-Unis et qu'elle appelle « backlash », cette puissante et perpétuelle contre-offensive qui consiste à annihiler les droits des femmes chaque fois qu'ils semblent avancer. C'est pas une théorie, c'est un fait. C'est le fruit d'une multitude d'enquêtes historiques, culturelles, sociologiques, politiques, et ça s'applique partout. Dans le désespoir de cette petite fille, dans la colère de ses parents qui témoignent, caméra à la main, dans le scandale de cette séquence, il y a toute la violence de ces contre-offensives. Et celle qui les a le mieux mises en avant en France, par ses combats sans cesse recommencés, par son refus de se résigner, par la flamme de sa pensée toujours ravivée, vous la connaissez. Ce soir, France Inter rend hommage à Gisèle Halimi. Ce matin, nous aussi.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Les mots de Gisèle Halimi résonnent forcément pour mon invité d'aujourd'hui. Journaliste, grand reporter au journal Le Monde depuis une trentaine d'années, elle était aussi son amie et elle avait recueilli sa parole dans un livre paru peu de temps après sa disparition. En juillet 2020, ça s'appelait « Une farouche liberté ». Bonjour Annick Cojon.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pour commencer cette émission un peu spéciale, j'aimerais qu'on entende la voix de Gisèle Halimi. C'était dans ce même studio, au micro de Pascal Clark, qu'il y a 11 ans exactement, comme on nous parle.
Quand on n'avance pas pour les femmes, compte tenu du retard à rattraper, on régresse. Mais on régresse parce que ce qui était considéré comme des libertés à conquérir et ce qui était et ce qui faisait qu'on croyait qu'on les avait complètement conquises sont vécues, me semble-t-il, comme des libertés tolérées. Et toute la différence est là. Je pense qu'il y a véritablement un courant idéologique qui se met en place. Ce que les femmes considèrent comme acquis, ces acquis-là sont toujours frappés par une espèce de malédiction, je dirais, de précarité. Ce que les femmes conquièrent, ce que les femmes acquièrent, est considéré comme un peu pris sur l'ennemi, j'allais dire, mais à reprendre aussitôt par l'ennemi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est que ne jamais considérer pour les femmes que ce qu'elles ont est définitif.
Annick Cojon, et si le combat n'était jamais gagné ?
Oui, quelle clairvoyance de Gisèle. Vraiment, ça me frappe. Ça m'émeut toujours de l'entendre parce qu'elle a tellement raison. À chaque fois que j'écoute une archive de Gisèle, la flamboyance, la lucidité, la percussion avec laquelle elle parle est toujours magique, est toujours tellement réelle, est toujours nous interpelle et nous oblige, là en l'occurrence, à faire attention, à ne rien considérer comme acquis, à être sur le qui-vive, à être vigilant et à être solidaire. Nous les femmes, en tout cas, j'espère les garçons aussi avec nous, mais en tout cas nous les femmes, parce qu'effectivement, tout peut toujours être mis en cause. On le voit de façon sur le plan économique. Les femmes sont toujours les premières victimes de chômage. Dès qu'il y a une moindre crise économique, ce sont elles qu'on renvoie à la maison. Et puis les autres droits, on le voit de par le monde, on le voit dans les pays de l'Est, on le voit en Afghanistan, vous l'avez dit.
Mais précisément, en quoi c'est on ne peut plus vrai en ce qui concerne le sort des femmes afghanes aujourd'hui?
Oh bah écoutez, là c'est effroyable parce que les hommes sont accrochés à leurs privilèges et surtout à ces sentiments qu'ils ont d'être tout à fait de race supérieure.
Là. Je sais que c'est quelque chose qui vous bouleverse, que ces images dont je parlais tout à l'heure vous bouleversent.
Oh bah oui, vraiment j'ai les larmes aux yeux en pensant à toutes ces petites filles qui ont fait leur cartable et qui ont rebrousser chemin et qui se désespère et qui voit l'horizon totalement bouché, pas d'avenir. Comment se projeter? C'est pas possible de se projeter dans le rôle qu'ont leur mère actuellement, de rester à la maison. La plupart des femmes afghanes sont battues, sont régulièrement violées, font l'objet de viols conjugaux, faut bien le dire, sont méprisées, de toute façon ne sont considérées comme des machines à procréer. Il faut avoir une femme pour assurer la descendance. C'est le destin qu'on a assigné aux femmes femmes depuis le début de l'humanité. Donc effectivement, rien n'est, aucun rêve, aucun grand rêve, aucun grand espoir n'est possible actuellement pour les petites filles. Je me demande toujours si les hommes se rendent compte à quel point c'est effroyable. Quand j'essaie de faire une comparaison, l'autre jour j'étais dans une classe et j'essayais de dire mais imaginez qu'on fasse ça aux garçons, c'est-à-dire qu'on dise aux garçons, bah désormais vous ne pourrez plus exercer de métier, vous ne pourrez plus aller à l'école, vous ne pourrez plus sortir qu'accompagné d'une femme de votre famille, genre tenue en laisse, etc. Et là tout d'un coup la classe éclate de rire parce que c'est juste invraisemblable. Ce qui me frappe, c'est que dans les négociations autour de l'Afghanistan, les diplomates occidentaux sont tous arrivés en tribu masculine. Et puis à la fin, on a tellement râlé, protesté, qu'ils ont inclus 2-3 diplomates femmes. Mais la plupart du temps, ils se disaient, pour se concilier les talibans, il valait mieux amener des troupes d'hommes. Mais c'est honteux.
On entend votre émotion. Annick Cogent, en quoi l'enquête, en quoi l'écriture naît-elle toujours chez vous d'un bouleversement, justement?
Ah, écoutez, c'est quelque chose qui propulse. Alors, c'est pas, quand je pars en reportage, j'ai pas forcément l'idée d'être une redresseuse de tort, sûrement pas. Mais en tout cas, j'ai l'idée d'être une éponge et d'être un lien. Voilà, c'est ça. En tant que reporter, c'est ça qui m'intéresse. C'est vivre avec les gens des moments intenses. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier.
Et en particulier des gens, en particulier des voix que l'on cherche à réduire au silence.
Oui, parce que dans ce cas-là, on se sent justement un porte-voix, on se sent une sacrée responsabilité. Je me sens ça sur les épaules. Quel que soit l'endroit où je suis, je me dis que j'ai acquis pendant la journée, parce que j'écris la nuit, pendant la journée, j'ai acquis la confiance de gens en leur parlant, en essayant de vivre intensément ce qu'ils vivaient, de comprendre, de leur faire dire avec le maximum de sincérité et d'être moi en empathie, bien sûr, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient. Et le soir, quand je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel ou dans une chambre chez l'habitant, eh ben voilà, il faut que je trouve les mots les plus justes, que j'arrive à trouver la façon de construire mes phrases pour toucher les gens, pour être digne de ce qu'ils m'ont confié dans la journée, et que ça touche mes lecteurs. Je ne peux pas imaginer, mais j'en aurais horreur, et ça doit pourtant arriver, et ça paraît prétentieux, je voudrais pas que ça le soit, c'est juste une ambition, un rêve peut-être, mais que ça secoue mon lecteur, il ne puisse pas sortir de mon article comme il y est entré, et qu'il ait envie de faire quelque chose, en tout cas, que plus jamais il n'écoutera parler de l'Afghanistan, du Kosovo, de tel ou tel sujet, avec indifférence, ce sera plus possible.
Diriez-vous que c'est en cela que la figure de Gisèle Halimi est si importante pour vous?
Oh bah écoutez, elle a secoué les gens aussi, oui. Elle secouait ses auditeurs, elle nous obligeait d'une certaine façon, et même quand elle lisait Le Monde devant moi, qu'elle feuilletait les pages, qu'elle s'arrêtait sur un article en disant « Vous avez vu, Annick, mais c'est incroyable, vous avez fait quelque chose là-dessus ?» Bah, je disais « Non, c'est pas mon sujet, c'est pas ma rubrique, c'est pas... Il faut faire quelque chose, vous ne pouvez pas rester indifférente, passive !» Waouh.
Ça c'est beaucoup plus tard, mais quand est-ce que vous avez découvert son existence à Gisèle Halimi?
Oh, je pense que c'est toute jeune encore, en Bretagne, en regardant les débats à la télévision, en famille, ou avec maman qui l'admirait, qui admirait Simone Veil. Et
quelle jeune fille est-ce que vous étiez à l'époque?
Oh, toujours très passionnée, très entière, je crois. Imaginant qu'effectivement j'allais parcourir le monde, ça c'était un de mes grands rêves. C'était évident que je ferais le tour du monde. Je disais toujours ça. Moi, je ferais le tour du monde. Et ce qui m'aimait bien, les plus précieux, c'était ma map monde. J'avais une map monde que je regardais sans arrêt, que je faisais tourner sur son socle. Et puis ma petite radio. Alors j'écoutais les ondes courtes parce que d'entendre pouf, tomber sur Radio PK, pouf, sur Radio Moscou, etc. Ça m'excitait, ça m'éclatait complètement. Donc j'allais aller voir plus loin comment on vivait, et le journalisme était un prétexte à la fois pour aller voir d'autres gens, pour aller expérimenter plein de choses, puis après pour raconter, accessoirement pour raconter et peut-être mobiliser. Je suis pas sûre que je me disais ça à ce moment-là, mais en tout cas oui, pour apporter ma contribution.
Alors la jeune fille, vous êtes devant la télévision, à côté de votre mère, et vous voyez Gisèle Halimi. Qu'est-ce qui tout de suite vous frappe dans sa façon de parler, dans sa façon de bouger, dans ce qu'elle dégage?
Ah écoutez, il y a un mot que j'adore, et quelquefois mes amis se moquent de moi parce que je l'utilise souvent, c'est le mot ardent. J'aime les gens ardents. Et Gisèle était ardente, c'est-à-dire... pleine de flamme, pleine de conviction. Pas de colère, parce que j'aime pas la colère. C'est vraiment un mot qui me révulse.
Une incandescence aussi.
Oui, une incandescence. Ouais. Au fond, c'est ça. C'est une incandescence et une volonté de convaincre. C'est quelque chose qu'il a porté vers les autres, parce qu'on ne travaille pas et on ne change pas le monde tout seul.
C'était dans ses yeux.
Et dans sa voix. Elle avait la voix soyeuse, elle avait une très jolie voix qu'elle n'aimait pas, ça me surprenait toujours, parce qu'elle critiquait sa voix et moi je la trouvais charmante. Et Gisèle était typiquement le genre de personne qui jouait des intonations de sa voix, de son regard, de ses mimiques, de ses cheveux. Elle était séduisante, séductrice aussi je pense, mais tout ça peut jouer lorsqu'on est animé de quelque chose.
Mais pourquoi une farouche liberté plutôt qu'une ardente liberté, pour reprendre le titre
oui, c'est vrai,
du livre avec
mais elle était aussi farouche. Elle n'était pas facile. Elle n'était pas commode, dirait-on même.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait de plus farouche en elle, en Gisèle Halimi ?
Ce besoin de liberté tous azimuts, de liberté pour elle-même au départ. Il y avait quelque chose. Elle disait même dans une première interview que j'avais fait pour Le Monde, j'avais en moi une force mauvaise, une force sauvage. Et sauvage et farouche s'accordent mieux effectivement à sauvage. Certes, il y avait de l'ardeur, quelque chose d'ardent, mais il y avait quelque chose aussi de difficile, de rageur.
Alors dans ce livre, vous échangez sur tous les sujets, y compris sur son enfance déterminante dans son parcours.
Ah oui,
qu'est-ce qui, dès son plus jeune âge, décide d'une certaine façon du chemin qui sera le sien ?
Ah, écoutez, ça me frappait parce que les premières fois où je l'ai vue, donc toute jeune journaliste, où elle m'avait invitée à déjeuner, je pense qu'elle m'a parlé de son enfance en me disant que c'était pas juste. Et quand je l'ai revue pour écrire ce petit livre, un peu avant sa mort, encore une fois, je ne pensais vraiment pas qu'elle allait mourir, je ne me l'imaginais même pas. Eh bien, elle était là devant moi, fatiguée, c'est vrai, parlant un peu plus doucement, c'est vrai. Et pourtant, il y avait la même flamme. Et elle me disait, vous savez, Annick, c'était pas juste. Quand elle avait 7 ans, eh ben c'est toujours pas juste. Et c'était frappant parce que ce sentiment d'injustice devant l'inégalité qu'elle avait ressenti enfant, devant ses frères, devant son père, devant les autres garçons, devant le fait qu'elle pouvait pas faire d'études, en tout cas on n'imaginait pas qu'elle en fasse, devant le fait que on essayait de faire en sorte que ses frères soient bons à l'école en leur donnant des cours du soir, etc. Alors que elle arrivait première, toute fière de dire « Maman, je suis première !» et qu'on lui disait « Mais arrête de te vanter, va te laver les mains !» Ça n'avait aucune importance. Oui, cette injustice était insupportable, elle la ressentait viscéralement dans ses tripes. C'était pas normal.
Écoutez-la, en 1979, au micro d'Anne Sinclair, Gisèle Halimi.
Mon enfance a été quand même très heureuse. Je sais que ça paraît contradictoire, mais elle était pleine de soleil, de mer, de football, et pleine de... Ça paraît aussi extraordinaire. J'ai eu ces problèmes avec mes parents qui considéraient que, je sais pas, que j'étais un petit peu anormale de ne pas vouloir me marier et de vouloir étudier. Mais je n'ai pas été mal aimée. J'ai été très aimée par mon père et ma mère, que j'aime tendrement. Il me reste ma mère maintenant et... Elle survit depuis que mon père est mort. Et je dois dire que cette enfance, au fond, ça pose un problème parce que c'est une enfance affectivement,
pleine oui.
Oui, avec beaucoup de lumière et de soleil et avec quand même cette espèce de révolte parce que c'était comme ça. Les filles, c'était pas bien.
Oh, les filles n'étaient pas bien. Mais non, elle était née du mauvais côté, elle l'a toujours senti. Et puis l'amour de sa mère qu'elle n'a cessé de quémander jusqu'à la fin de la vie de sa maman. Alors, elle lui disait, mais maman, pourquoi tu ne m'as pas aimée ? De cette enfance un peu mal aimée quand même, contrairement à ses frères, elle en tenait une grande révolte et c'est quand même une clé pour la comprendre.
Quand, très concrètement, est-ce que vous avez pris conscience que les femmes n'étaient pas traitées de la même façon que les hommes et qu'on n'attendait pas les mêmes choses d'une femme que d'un homme ?
Écoutez, alors j'ai pas eu la même enfance de Gisèle et moi on me disait pas systématiquement de faire le lit de mes frères, mais enfin je faisais davantage la vaisselle certainement et puis je voyais les rôles assignés malgré tout à la maison entre mon père et ma mère. Mon père travaillait, n'aurait absolument pas voulu que ma mère le fasse alors qu'elle avait un métier avant de l'épouser. Elle devait s'occuper des enfants, elle devait... Je pense à Françoise Héritier, merveilleuse anthropologue qui a tellement bien parlé des femmes et qui disait, mais je voudrais savoir la proportion d'hommes en France ou dans le monde qui n'auraient pas mangé d'oranges s'ils n'avaient pas eu de femmes pour éplucher les oranges. Et ben c'était le cas de mon père, je crois.
Mais ce qui est passionnant quand même dans l'archive qu'on vient d'entendre, c'est le rôle des parents justement qui, presque à leur insu, tout en aimant profondément leur fille, perpétuent un modèle patriarcal qui se fait au détriment de la liberté des femmes.
Oui.
Avec quels parents est-ce que vous avez grandi, vous ?
Oh, des parents très aimants, des deux côtés. Ça, c'est incontestable. Mais je parlerai davantage de ma mère, parce que c'est elle qui m'a donné des ailes, qui m'a ouvert grand les horizons, qui me permettait de rêver et de dire que tout était possible. Elle n'avait pas de grands discours, c'était tout tranquille, mais c'était une confiance. Et je parle, je crois dans un livre, en tout cas, je cite Gloria Steinem, à qui, cette grande féministe américaine, à qui des femmes disaient, mais qu'est-ce qu'on devrait dire à nos filles pour leur donner de la force. Et elle dit simplement, écoutez-les, ça leur fera prendre conscience qu'elles ont des choses à dire.
En cela, c'était une mère féministe.
Oui, je pense qu'elle était féministe. Peut-être que le mot lui aurait fait peur au départ, encore qu'elle aimait tellement Gisèle Halimi et Simone Veil que certainement elle disait aussi ce mot. Elle était effectivement un peu conventionnelle au départ, parce qu'elle vivait dans ce milieu peut-être petit bourgeois de province, mais elle était profondément généreuse, elle faisait attention aux gens autour d'elle, elle avait toujours envie de les mettre en valeur. À chaque fois, elle essayait de tirer le meilleur de chacun, et au fond, c'est ce qui m'intéresse de faire dans mon métier.
C'est ça, c'est intéressant. Regarde votre métier, qu'est-ce que la femme que vous êtes devenue lui doit, qu'est-ce que la journaliste que vous êtes devenue lui doit.
Oh ben, je dirais une grande curiosité, et puis peut-être un élan vers les autres quand même.
Enfin, une tendresse.
Oui, c'est un mot que j'adore. Oui, la tendresse. Je pense qu'on serait rien sans la tendresse, et quand quelqu'un est sincère envers nous, et se livre devant moi, qui suis journaliste et qui pose des questions, ben je crois que oui, j'ai facilement un élan de tendresse.
Alors on va l'écouter, la tendresse.
Ah.
Par Marie Laforêt qui reprenait Bourville. Vous êtes sur France Inter avec Annick Cojon. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
France Inter, Boomerang.
On est quelque part entre la Fée des Lilas, Olivia Newton-John dans le final de Grease, et Marianne, le cheveu bouclé lumière, le sourire tendre, un je ne sais quoi de farouche dans son œil bleu océanique avec sa veste brune et ses créoles. La journaliste et grand reporter Annick Cojon, invitée de Boomerang ce matin pour parler de Gisèle Halimi, à qui France Inter consacre une soirée spéciale, mais aussi de cet art qui est le vôtre et qui s'illustre dans presque chacun de vos livres, c'est celui de l'entretien. Annick Cojon, quand avez-vous commencé à poser des questions ?
Oh ben toujours. Je pense que j'ai toujours posé des questions, et de découvrir qu'il y avait un métier dans lequel c'était pas un vilain défaut, mais au contraire la clé et l'outil majeur était juste merveilleux. J'ai très plutôt voulu être journaliste, parce que je posais des questions, parce que j'avais envie de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça, et comment ça marche, etc. Je pense que beaucoup d'enfants aussi. Mais là, pour le coup, c'était presque une obsession.
Alors, et... qu'est-ce que c'est une bonne question, au fond?
Oh, c'est difficile, vous qui en posez tellement. Je vous envie, ce qui est important, surtout, c'est les réponses. Donc, quelquefois, c'est pas la jolie question, ouais. C'est la façon dont on la pose, c'est la façon dont on regarde les gens, dont on leur inspire confiance, dont on prend le temps. Je pense que le temps est mon principal allié. Alors évidemment, si je m'entretiens avec un homme politique et que je veux vraiment avoir des réponses, oui, je vais l'embêter et je vais aller jusqu'au bout et puis je vais essayer. Je suis en quête de quelque chose. Et il me doit la vérité. Mais si je vais, et c'est la plupart des entretiens que je fais, j'essaie de comprendre une personnalité parce que je voudrais que ça serve à d'autres. Notre entretien, je veux que ça fasse vibrer quelque chose dans la. Dans le cœur, je sais pas, dans un endroit du corps, en tout cas, de mes lecteurs. Je veux que ça les touche quelque part. Et pour ça, il faut pas être agressif du tout. Ça va, je vais prendre le temps, je vais revenir, je vais essayer différents terrains. Et puis, s'il y en a un qui m'est interdit, c'est pas grave. Il y a un autre qui sera possible.
Il y a des questions impossibles.
Elles sont jamais impossibles. Je pense que tout est dans la façon dont on se regarde, dont parlent les yeux. Et puis, il y a quelquefois des terrains trop difficiles, trop susceptibles, trop émouvants.
Pensez
trop...
à quoi ?
Oh, écoutez, je pense que quand on parle d'un deuil, quand on parle d'une violence qui a été faite, encore que vous savez, j'ai beaucoup fait d'interviews sur les viols, et oui. Notamment dans les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, oui. Où c'est un tabou extrême. Je pense que j'ai été très maladroite dans mes premières questions. Je ne savais pas à quel point c'était sulfureux et impossible à dire. Et je pense qu'au départ, je m'y prenais pas très bien. J'allais trop directement.
Parce qu'une question, ça se prépare.
Oui, ça se prépare. Un entretien se prépare. C'est, faut pas arriver. Alors, à la fois, faut arriver frais, mais il faut pas arriver naïf. C'est toute la difficulté.
Gisèle Halimi, c'était facile de lui poser des questions à Nick Cojan?
Oui. Parce que d'abord, elle était rompue à cet exercice, qu'elle était très franche et qu'elle était courageuse. Donc, elle assurait, elle assumait tout. Et puis qu'elle avait suffisamment de métier pour détourner une question si ça l'embêtait vraiment. Elle s'était blindée sur beaucoup de terrains. Elle a été tellement critiquée, attaquée. C'est pour ça qu'il lui fallait, il a fallu qu'elle apprenne à se protéger. Quand elle était pendant la guerre d'Algérie, elle a été. C'est facile de dire maintenant que oui, elle s'est attaquée à la question du viol, à la question de l'indépendance de l'Algérie, etc. Mais c'était mal vu à l'époque. Maintenant, on a l'air d'une héroïne si on s'occupe de ces questions. C'était pas du tout le cas. On était très mal vus, très critiqués. Elle a reçu des menaces de mort. Elle a été traitée de pute à bico, etc. Tout ça a été d'une violence extrême.
Au fond, qu'est-ce qu'on lui doit à Gisèle Halimi? En quoi la société française telle qu'on la connaît aujourd'hui serait pas la même si elle ne s'était pas battue, si elle n'avait pas résisté à Nick Cojan?
Oh bah écoutez, il y a différents terrains sur lesquels elle a, pour le coup, posé des jalons, plus que des jalons, pour lesquels elle a transformé la société. La question de la torture, elle n'a pas été la seule à parler de la torture, mais elle a parlé de la torture par le viol. C'était même un mot qu'on n'osait même pas écrire à la une des journaux, tellement ce mot viol donnait l'impression de même salir le papier, salir la page. Première chose. Ensuite, sur l'avortement, elle était courageuse. On lui avait dit, Simone de Beauvoir lui avait dit, on signe un manifeste, vous n'allez pas le signer, Simone, Gisèle, pas vous, vous êtes avocate, vous pourriez avoir des problèmes. Ben, j'insiste, disait-elle, et comment que je vais le signer? Donc, très vite, elle s'est battue sur l'avortement. Et puis après, la question, à nouveau la question du viol, ce fameux procès de 78 où elle a été admirable, où elle en a fait encore, malgré l'interdiction des magistrats, le grand procès du viol, parce que elle saisissait certains procès pour parler au-dessus, oui, de la tête des magistrats, oui, et d'interpeller toute la société. Et donc, toute la société a été bien obligée, les journaux étaient bien obligés de se saisir de ces questions. Et puis la parité, et puis la question du divorce, et puis quand elle a rassemblé les femmes en 78 en disant « Les partis politiques ne nous donnent pas la place, eh ben qu'à cela ne tienne, on va faire une grande liste avec que des femmes. » Mais quelle audace, quel culot, c'est magnifique. Elle n'a pas fait beaucoup de pourcentage de voix. Et alors, elle a fait parler, elle a donné confiance à des tas de femmes. Je pense que c'est incroyable ce qu'on lui doit.
Le chœur de l'Opéra d'Odessa, il y a 3 semaines, qui chante Verdi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez? Cette aria du Nabucco, ce chœur des esclaves,
Annie Cojon. Le chœur des esclaves, le chœur des Hébreux. Oh, c'est extraordinaire, j'en ai la chair de poule. Et si j'avais été là, j'imagine que j'aurais eu les larmes aux yeux, comme beaucoup de journalistes sur plage, parce que c'était juste incroyable. C'est l'art contre la guerre, l'art contre la haine, contre le feu, etc. En envoyant des notes de musique vers les cieux, c'est tellement magistral, c'est magnifique. C'est la musique de Verdi. Ça me fait penser aussi à Nabucco qui a été joué à l'Opéra de Rome, et dans laquelle, au pire moment de l'époque Berlusconi...
Interruption, je me souviens.
C'était ouais. Riccardo Muti a pris ouais. la parole parce que tout le monde demandait à bisser cet opéra. Il dit, ben non, ça se fait pas normalement. Toscanini voulait pas qu'on bisse les opéras. Et là, il l'a fait en disant, allez, tout le monde se lève avec une intention. Pensons à notre patrie et pensons à notre culture qui est en train d'être anéantie. C'est un champ de combat.
Contre quoi s'agit-il de résister aujourd'hui? Pour vous, Annie Cojon.
Oh bah écoutez, puisqu'on parle de Gisèle, il faut encore résister aux règles du patriarcat. Oui, elle nous emprisonne, elle nous menotte, elle nous ligote. Encore, nous les femmes, bien sûr, dans tous les conflits, je pense que les premières victimes sont les femmes et les enfants. Donc oui, bien sûr, luttons contre les violences faites aux femmes. On en parle beaucoup maintenant des féminicides, mais ça continue, les humiliations.
Donc reprendre le flambeau oui. et le passé.
Ah oui. C'est très très important, je pense qu'elle y tenait beaucoup, et c'est notre rôle, moi c'est mon rôle de journaliste aussi, de donner la parole aux femmes. On ne l'a pas fait, quand on regarde les pourcentages d'apparition des femmes dans les médias, il est encore ridicule par rapport à celui des hommes. Regardez à la table des négociations, ce sont des hommes, ce sont les hommes qui font la guerre, et après c'est aux hommes qui font la paix. Alors que les femmes sont de merveilleuses faiseuses de paix. Donc je crois que c'est, oui, en tout cas je considère moi à ma petite place de journaliste qui veut être un pont entre mes lecteurs et les gens dont je parle, que j'observe sur le terrain, eh bien, je dois leur donner la parole.
Quel est ce texte que vous avez sous votre stylo?
Eh bien, écoutez, ce sont les quelques derniers mots, je dirais, de Gisèle Halimi dans notre petit livre, oui. Où elle parle du flambeau. Et elle a envie de dire quelques mots aux femmes, c'est très court, mais enfin, elle pense à la relève quand même, et elle leur donne une petite mission.
On vous écoute.
J'attends que les femmes fassent la révolution. Des mœurs, des esprits, des mentalités. Je n'arrive pas à comprendre qu'elle n'ait pas déjà eu lieu. Alors j'ai envie de leur dire plusieurs choses. D'abord, soyez indépendantes économiquement. C'est une règle de base. Comment être libre d'exister, de choisir, de fuir en cas de violence, si l'on est dépourvu de moyens, de métiers et de l'estime de soi que procure l'indépendance économique. Alors développez de grands rêves, mais ne perdez jamais de vue l'exigence primordiale de l'indépendance. Ensuite, soyez égoïste. Ce mot vous surprend? Eh bien tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons, elles craignent de s'imposer, de révéler leurs ambitions. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes, c'est juste que leur histoire leur a dicté cette attitude de réserve. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne doit pas se faire remarquer, ne doit pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Mais rebellez-vous, pensez enfin à vous. Vous êtes importante, devenez prioritaire. À cela, j'ajoute, refusez l'injonction millénaire de faire à tout prix des enfants. Elle est insupportable et réduit les femmes à un ventre et à une mission perpétuer l'humanité. J'affirme que la maternité n'est ni un devoir, ni l'unique horizon. Et que l'instinct maternel est un immense bobard à jeter aux poubelles de l'histoire. Soyez libre. La maternité doit être une décision prise en liberté, hors pression biblique ou conditionnement social. Enfin, n'ayez pas peur de vous dire féministe. C'est un mot magnifique, vous savez. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente les rapports homme-femme. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés par leur genre et où la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes. Les féministes de ma génération se sont vaillamment battues. Mais il faut une relève à qui tendre le flambeau. Le combat est une dynamique. Si on arrête, on est foutu. Car les droits des femmes sont toujours en danger. Alors soyez sur le qui-vive, attentive, combative. Pas seulement en écrivant « moi aussi, MeToo » sur les réseaux sociaux. C'est sympathique, mais ça ne change pas le monde. Or, c'est le défi que vous devez relever. On ne naît pas féministe, on le devient.
Merci infiniment, Annick Cojon. Merci d'être venue faire un tour dans Boomerang pour moi. C'était très émouvant. Je rappelle que votre livre, coécrit avec Gisèle Halimi, Une farouche liberté, est publié chez Grasset, où vous sortirez d'ailleurs très bientôt une nouvelle série d'entretiens, Nous ne serions pas arrivés là si. Entre-temps, ne ratez sous aucun prétexte l'hommage à Gisèle Halimi et à toutes les femmes ce soir sur France Inter, avec une certaine Sonia de Villers, à la place, non, en plus, de son instant M, qui est juste après ça.
A ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Era algo bien especial. Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente. Y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía. Yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionero y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Traicionera y como ya viene se te va.